Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 6, du verset 19 à 33.
Lisons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Amen. Voilà, le Seigneur dit, mais pourquoi s'inquiéter du vêtement, puisque les fleurs sont mieux superbement vêtus. Si Dieu s'intéresse aux fleurs pour les habiller, à combien plus forte raison les humains? C'est pour nous dire que par rapport à la prédication de ce matin, ce n'est pas que Dieu néglige, Dieu refuse qu'on s'occupe de soi, mais il veut juste que les priorités soient fixées. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchons d'abord ce qui a de l'importance aux yeux de Dieu. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui a de l'importance aux yeux de Dieu? Donc nous allons parler de l'emballage et du produit, du corps et de l'âme. Lorsque nous sommes face à un produit, il y a ce qu'on appelle l'emballage. Et cet emballage-là, ça sert à présenter le produit, mais ça sert aussi à transporter le produit. Et ça sert aussi à conserver le produit. Ce n'est pas que Dieu soit contre l'emballage. Il veut seulement nous apprendre à faire la différence entre l'emballage et le produit et à donner de l'importance au produit, parce que ce que veut la personne qui achète, c'est le produit que la personne veut. Il ne cherche pas l'emballage. Mais cependant, ce produit-là doit être conservé quelque part, doit être transporté. Il doit être présenté. Et le danger, c'est que l'emballage prenne le dessus sur le produit. C'est ce qui se passe sur la terre, où l'emballage a pris le dessus sur le produit. Le corps a pris le dessus sur l'âme. Les humains s'inquiètent plus de leur corps au lieu de s'inquiéter de leur âme. Le corps un jour finira, un jour sera détruit, mais l'âme continuera à vivre. Mais pour vivre où? Soit en enfer, soit au ciel. Et le Seigneur dit, cherchez d'abord la finalité de l'âme. Où est-ce que l'âme ira? C'est ça qui doit vous intéresser. Ce n'est pas l'emballage. On ne mange pas l'emballage. Même si aujourd'hui l'emballage nous influence. Pourquoi l'emballage nous influence? Parce que la Bible dit dans 1 Jean 2, 15 à 16, notre problème, c'est qu'on a la convoitise des yeux. Ève a regardé le fruit dans le jardin d'Éden. Elle a trouvé que le fruit était beau. C'est ça qui l'a conduit à manger un fruit interdit qui a amené des malheurs sur la terre. C'est la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et la convoitise de la chair qui donnent de l'importance à l'emballage plus qu'à l'intérieur. Mais Dieu nous dit que c'est l'intérieur qui est important. Lisons Marc 8, 36. C'est l'intérieur qui est important. C'est l'âme qui est importante. Ce n'est pas l'emballage. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Attention à l'emballage. Oui.
Marc, chapitre 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme?
Voilà. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, mais s'il perd son âme? Parce que qu'il le veuille ou pas, un jour, l'emballage, on l'ouvrira, bien aimé. Vous savez, il y a des choses qu'on a achetées, mais qu'on n'a pas encore ouvertes. Et tant que tu n'as pas encore ouvert, de quoi tu te nourris? Tu te nourris de l'emballage. L'emballage est beau, il est excellent. Et l'emballage, ça peut être aussi la pub, parce que la définition, moi j'ai donné une définition rapide, mais la définition dans le milieu du marketing, c'est tous les éléments qui servent à la présentation, c'est ça l'emballage, à la présentation du produit, à sa conservation et à son transport. C'est ça l'emballage, économiquement parlant. C'est tous les éléments, ce n'est pas seulement le paquet, c'est aussi la pub que tu as regardée à la télé. Ça fait partie de l'emballage. Donc, ça a servi à te présenter le produit. Combien de gens n'ont-ils pas acheté le produit parce qu'ils ont vu la pub à la télé ou bien sur un prospectus que le produit pouvait faire telle chose? Mais tant que tu n'as pas encore utilisé, tu vis encore de l'emballage. Mais il y aura un jour qu'on appelle le jour du jugement où le véritable produit sera jugé. Le jour où tu ouvriras l'emballage, c'est là, quand tu vas essayer la marmite, quand tu vas essayer la casserole que tu as vue à la télé, quand tu vas essayer la voiture, c'est ce jour-là. Quand tu vas faire une longue distance, il y a des voitures, quand tu fais que les 10 km, 5 km, tu as l'impression que c'est la plus belle voiture. Mais quand tu vas faire maintenant 7 heures de route, c'est là que tu vas comprendre la réalité. Il y a un jour où on va goûter au produit. C'est le jour du jugement où on va dire, c'est vraiment un vrai produit ou pas? Ça va arriver. Mais le monde se concentre sur l'emballage. Jésus dit, mais à quoi ça sert d'avoir le plus grand emballage si l'intérieur c'est zéro? Je me souviens, dans mon pays d'origine, il y a une nourriture qu'on appelle une sorte de manioc chauffé au four, mis dans des feuilles, qu'on appelle chikwang. Donc on chauffe le manioc et puis on l'emballe, on met plusieurs feuilles. Maintenant, tu peux acheter un gros manioc comme ça, tu te dis, mais j'ai fait une bonne affaire. Mais quand tu commences à enlever les feuilles, ça ne finit pas. Et tu vas te retrouver avec un bout de nourriture comme ça, c'est-à-dire le vendeur t'a eu. Donc l'emballage était costaud, mais à l'intérieur, il n'y avait rien du tout. C'est ça la réalité. L'emballage peut nous tromper. Et Dieu nous dit aujourd'hui que tu te trompes toi-même avec ton emballage. Tu n'es qu'un emballage. Le corps n'est qu'un emballage. La réalité, c'est l'âme. Ce qui importe à Dieu, c'est l'âme. Où ira ton âme? Mais l'emballage a son temps de succès. A son temps où il impressionne, où il attire, où il fait vendre. il y a toujours un jour où ce n'est plus l'emballage qui va fonctionner, c'est la réalité. Vous savez, quand on parle de produits allemands, on ne parle pas d'emballage, on parle de la réalité. C'est-à-dire la personne a utilisé pendant 30 ans et en parle. Mais quand on parle de certains produits qui passent à la télé, publicité, tout le monde va acheter. C'est vrai, ça va avoir un succès à cause de l'emballage, mais c'est pendant un temps, à cause de la pub, à cause des faux témoignages aussi. On peut toujours inventer des faux témoignages, maître. Ça fait partie de l'emballage. Pendant un temps, ça va avoir du succès, mais la réalité viendra toujours. Et ta vie que tu mènes, comme un emballage, ça va avoir, tu vas avoir un temps, une certaine satisfaction personnelle. Mais le produit sortira un jour. Un jour, on verra bien que l'intérieur, c'était zéro. Alors Dieu nous dit, occupons-nous de l'intérieur, plus que de l'extérieur. Ce n'est pas que Dieu soit contre l'extérieur, parce que nous connaissons, il y a des gens spirituels qui vont en profiter pour ne plus se laver, qui vont en profiter pour ne plus manger ce qui est correct. Hein. Vous dites, mais non, mais ça c'est l'emballage. Ah non, l'emballage est important, mais sauf qu'il est moins important que le produit. C'est ce qu'on veut dire. Qu'un stylo soit costaud hein, dans son corps, ce n'est pas mauvais, mais s'il n'écrit pas, si quand tu veux écrire, on te donne rapidement un numéro de téléphone, tu prends ton stylo qui est bien costaud, bien doré, tu veux écrire, ça n'écrit pas. À quoi ça sert le stylo? Ça ne sert à rien. C'est que nos enfants, quand ils font la technologie, on appelle la fonction d'usage. Ce pourquoi le produit est fait. Le stylo, il est fait pour écrire. Il n'est pas fait pour, embellir ta veste. Il est fait pour écrire, mais qu'il soit solide et qu'il soit beau, on n'est pas contre. Mais si il est solide, il est beau, tu écris le premier jour, le deuxième jour, ça n'écrit plus. Ce n'est plus un stylo. Donc ce n'est plus un stylo, c'est autre chose. Donc dans le domaine des stylos, ça va être recalé. On va dire que ce n'est pas un vrai stylo, parce que ça n'écrit pas. Et Dieu a créé l'homme à son image. Quand il trouve que l'homme n'est pas à son image, il dit que ce n'est pas un vrai homme, c'est un animal. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Les hommes sans Dieu sont des hommes animaux parce qu'ils ne sont pas à l'image de Dieu. Et Dieu va te regarder et va dire, mais ça, ce n'est pas un homme, c'est un animal. Tu es écarté. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Dans 1 Corinthiens 2, les gens qui sont sans Dieu sont des hommes naturels, des hommes animaux, parce qu'ils ne sont pas à l'image de Dieu. Ils ont le corps d'homme, mais l'intérieur n'est pas l'intérieur d'homme. C'est un intérieur qui n'est pas selon Dieu. Et c'est ce qu'on retrouve à gauche, à droite. La majorité des humains se comportent comme des animaux. Ils sont saisis par l'emballage et le diable se moque d'eux. Vous savez, quand on était jeune, il y avait des modes. Après, ces modes sont passées. Aujourd'hui, c'est revenu. Aujourd'hui, il y a des gens qui eux-mêmes, ça s'appelle quoi? Ils mettent une teinture sur leur barbe pour que ça devienne blanc. Alors que, il fut un temps, quand tu avais la barbe blanche, c'est synonyme de vieillesse. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent une teinture sur la barbe pour que ça devienne blanc. Un jeune de 19 ans, il a un coin blanc là. Tu te dis, mais comment il a... Non, c'est lui-même qui s'est mis tout seul. Et quand les démons voient ça, ils disent, mais les hommes sont rigolos. Donc aujourd'hui, on leur fixe tel mode, ils prennent. Mais c'est vrai. Même les démons se moquent de nous. Ils disent, mais ils sont rigolos les hommes. Avant, on leur avait fixé la mode d'avoir une police. Ils étaient tombés dans le piège. Maintenant, c'est la barbe blanche. Ils sont contents. Même les démons sont surpris. Avant, c'était les pantalons pattes d'éléphant. Tout le monde est là, pattes d'éléphant. Et aujourd'hui, c'est les pantalons courts. Tout le monde est là. Mais ils sont, dans le monde spirituel, ils sont étonnés de la bêtise humaine. Je vois des gens des collaborateurs quand je travaillais encore, des collaborateurs, quelqu'un qui travaille, il a un pantalon, mais sans ceinture, de sorte qu'on se voit son sous-vêtement. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Mais à quoi sert hein, le pantalon? À quoi sert? Et les démons, quand ils voient ça, ils disent, oh là 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 là, l'homme n'est qu'un emballage. C'est rien du tout. À quoi sert? Un jour, le sous-vêtement était troué. Moi, j'ai dit, voilà. Voilà. Donc, tu te permets de mettre un pantalon, laisser taille basse, toi, tu tiens un enseignant, et puis finalement, le sous-vêtement est troué. Non, c'est la bêtise humaine. Si nous ne faisons pas attention, nous allons vivre en emballage. Et vous savez, qu'est-ce qu'on fait de l'emballage? Tôt ou tard, on le jette. Tôt ou tard, même le plus bel emballage, on va le garder pendant un temps, mais un jour, il n'y aura pas de la place dans la maison. Ça va aller à la poubelle. Ça va aller à la poubelle parce que tu n'as plus de place. Et c'est pourquoi tôt ou tard, Dieu jettera les humains emballage. Des gens qui ont oublié que ce que Dieu attend, c'est la prospérité de l'âme. Ce n'est pas la prospérité. La prospérité du corps n'est pas un objectif en soi. Le corps est prospère pour porter l'âme et que l'âme fasse la volonté de Dieu. C'est ça. Dieu n'est pas contre la prospérité du corps. Mais il veut juste nous dire que le but, c'est que le corps porte l'âme et que l'âme fasse le boulot. C'est pourquoi c'est qu'est-ce qui est écrit dans 3 Jean 2. Lisons tous. On va prendre le temps que tous nous puissions arriver à 3 Jean 2. Avant que le diacre lise, que nous tous nous trouvions, parce qu'on va croire que c'est peut-être notre Bible. 3 Jean 2. Ok, on va lire maintenant.
Lisons la parole de Dieu dans 3e épître de Jean. Au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Nous ne sommes pas en train de prêcher la pauvreté. Nous disons tout simplement, Dieu a un objectif, la prospérité d'abord de l'âme. Et le reste vient après. Dieu t'appelle prédicateur. Quel est le premier objectif? Prospérité de ton âme à toi. Mais que font les gens aujourd'hui? Il est prédicateur, son objectif, c'est qu'il y ait beaucoup de monde quand lui il prêche. Son objectif, c'est qu'on lui dise « tu as bien prêché ». Non! D'abord ton âme à toi, prédicateur. L'apôtre Paul dit « je fais attention à moi-même après avoir prêché aux autres, que moi-même je ne sois pas disqualifié ». Ah oui! C'est ton âme à toi d'abord. Quand Dieu te donne des messages, tu es prédicateur, ce n'est pas pour l'apparence. L'apparence, c'est ça l'emballage. C'est pour que toi-même... Donc quand tu reçois la prédication dans ta tête, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Et quand toi tu as digéré ça, ça devient maintenant pour les autres. Tu peux servir ça aux autres. C'est pour toi. Dieu ne connaît que toi. Maintenant, quand il travaille en toi, il peut maintenant connaître les autres à travers toi. Mais c'est toi que Dieu connaît. Et beaucoup de gens, ils reçoivent des révélations, ils reçoivent des messages. Ils notent. Ils oublient que c'est pour eux. Au lieu de méditer ça et de pratiquer, ils attendent le jour où ils seront en face d'un public. Je connais des gens qui me disent, « Ah, pasteur, le jour où Dieu permettra que je témoigne. » Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Le jour où je serai face à un gros public. C'est ça. Mais Dieu peut. Tu as une expérience avec Dieu. Le jour où Dieu permettra que je témoigne. Mais tu peux témoigner à une personne. Tu peux témoigner dans ton garage. Tu peux témoigner au boulot. Non, qu'est-ce que lui, il entend? Le jour où il y aura l'apparence, l'emballage brillant d'un public avec un micro, les caméras qui filment, le jour où Dieu permettra que je témoigne. Mais non, mais tu es en train déjà de témoigner là. Commence par témoigner à ton âme. David parlait à son âme. Il dit, mon âme, bénis le Seigneur, celui qui te guérit de toutes tes maladies. David était conscient qu'il avait un corps, il avait aussi une âme. Et c'est ce que nous négligeons. On a une âme qui doit être soignée, qui doit être amenée à Dieu. Et ce qui se passe dans le corps a pour but de perfectionner l'âme. Mais Dieu est bon. Il est tellement bon que quand on oublie ça, il secoue notre corps. Il secoue tout ce qui fait notre emballage, nos voitures, nos maisons. Il va permettre qu'on raye ta voiture. C'est parce qu'il veut que tu penses à ton âme. C'est ça. Tu as beau la cacher, on va rayer encore. Parce que Dieu veut que tu penses à ton âme. Tu as beau embellir ta maison, il y aura toujours un problème. Parce que Dieu veut que tu comprennes que c'est de l'emballage. Ce n'est pas que Dieu soit contre une belle maison. Mais quand on oublie l'objectif de la maison, qui est de porter les choses de Dieu, Dieu va permettre, il va nous secouer. La bonté de Dieu est infinie. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en qui Dieu avait mis une écharde, une souffrance, lui-même il dit, au début, j'ai prié 3 fois pour que Dieu m'enlève cette souffrance. Mais après, je me suis rendu compte que cette souffrance, Dieu m'a dit qu'il a placé ça pour ne pas que je tombe dans l'orgueil. Cette souffrance me rappelle que mon corps n'est qu'un emballage. Cette souffrance me rappelle que la terre passera. Cette souffrance me rappelle que le succès apparent qu'on peut avoir dans les choses de Dieu, ce n'est que de l'emballage. Le plus important, c'est ce qui se passe dans le cœur d'une personne. Il y a des gens qui nous donnent l'impression que rien ne les a atteints. Au contraire, c'est eux qui ont reçu vraiment la parole. Ils sont silencieux. Ils ne parlent pas beaucoup, mais Dieu les a touchés quand on a parlé. Mais il y a d'autres, on n'est pas contre cela, qui vont être exubérants, qui vont manifester la joie, la paix. Mais ce n'est pas forcément ça qui est l'intérieur. L'intérieur, seul Dieu connaît ça. Il nous demande de faire le travail en visant l'intérieur, pas en visant l'extérieur. On va obliger les gens. Dites amen. Ah, mais pourquoi ? Si toi, tu as dit quelque chose de vrai, c'est le Saint-Esprit qui va pousser quelqu'un à dire amen. Il y en a même qui disent, dites-moi un amen puissant. Oh. Dites-moi un amen américain, finalement. Quoi. Non. Ça, c'est les emballages, les apparences. Cherchons toujours l'intérieur des choses. Cherchons toujours l'intérieur des choses. Je vous ai raconté l'histoire de ce prédicateur qui prêchait. Pendant qu'il prêchait, il y a un homme qui a pleuré pendant toute la prédication. Mais à la fin, il s'est dit, est-ce que je dois aller le voir ? Il n'a pas été convaincu d'aller le voir. Et puis un jour, quelques jours après, il se rencontre sur le pont de la ville. Il dit, monsieur, je t'ai vu pleurer ce jour-là, est-ce qu'on peut discuter de Dieu ? Il dit, non, il fallait me voir ce jour-là quand j'avais pleuré. Donc c'était des pleurs de crocodile, des larmes de crocodile. Si vraiment Dieu l'avait touché, quand Dieu touche quelqu'un, c'est pour toute la vie. Ce n'est pas juste pendant un moment, pendant qu'on prêche. Si vraiment Dieu t'a touché, si je te rencontre 5 jours après, tu gardes encore ça. Et cet homme a dit, non, il fallait me voir le moment où j'avais pleuré. Voilà. C'est des gens qui, en réalité, ne sont pas touchés. Dans Jean, au chapitre 2, il est écrit que Jésus avait fait des miracles et beaucoup de gens avaient cru. Mais il est écrit toujours dans la suite que finalement Jésus ne croyait pas en tous ces gens parce qu'il connaissait le cœur des gens. Il savait qu'en réalité, ils n'avaient pas cru. Ils avaient été impressionnés par les miracles. Ils avaient sympathisé, mais ils n'étaient pas transformés. C'est ça l'emballage, c'est l'apparence. En apparence, la personne est touchée. En apparence, il y a beaucoup de gens. Mais Dieu regarde l'intérieur, le produit. C'est ça qui compte. Tôt ou tard, on verra quel est le produit. L'emballage a son temps de succès. Sur la vitrine, c'est l'emballage qui domine. Ce n'est pas le produit, c'est l'emballage. Mais un jour, on ouvrira le produit. Et un jour, il y aura le jugement dernier. on nous ouvrira tous et on nous pèsera. C'est là qu'on dira, mais non, mais finalement, c'était les feuilles qui étaient en grande quantité. Finalement, c'est le carton qui était immense. Finalement, c'était les vidéos, les images qui étaient immenses, la pub qui était immense. En réalité, ça ne pèse pas grand-chose. C'est ce qu'on a dit à Belshazzar, dans Daniel 5, 27. On a dit à Belshazzar, tu as été pesé, tu n'as pas de poids. Sur la terre, oui, tu as le poids, parce que c'est un roi. Un jour, ce roi-là a vu une écriture. Pendant qu'il faisait la fête avec les convives, il a vu une écriture, un doigt qui a commencé à écrire. Ils ont paniqué, ils ont cherché l'explication. Ils ont fait appeler Daniel, le prophète du Seigneur. Daniel est arrivé, il a donné l'explication. Mene, mene, tekel, parsim. Il a dit, mene, mene, ça veut dire que ton règne est compté. Mene, ça veut dire compté. Ton règne est compté, ton règne est fini. Tu es roi, mais c'est fini. Dieu te dit déjà que c'est fini. Tekel, ça veut dire pesé. Tu as été pesé, mais on t'a trouvé léger. Notre âme a un poids. Ça a un poids. Et les démons savent évaluer ce poids-là aussi, à peu près. Ils savent à qui ils ont affaire. C'est pourquoi c'est écrit dans 1 Jean 5, 4. La foi, c'est la foi qui triomphe de ce monde. Les démons ne peuvent pas faire le poids face à une âme qui a foi en Dieu. Ils sentent ça. Là, il y a le roc. Ils préfèrent fuir. Mais il y a toujours des courageux qui vont oser. Mais la foi en Jésus, la véritable âme accrochée à Jésus, va faire toujours la différence. Tu as été pesé. On n'a trouvé en toi aucun poids. Lorsqu'on voit à toi l'attraction pour les choses de la terre, la dépendance à l'argent, la dépendance aux félicitations, la dépendance au nombre, les démons sont contents. Ils disent, ah, on sait comment on va l'avoir. Il suffit qu'on lui envoie 1000 personnes. On l'a eu. Mais lorsqu'ils voient qu'il n'y a rien de cela, tu es accroché à plaire à Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas que les gens te félicitent. Ce qui compte pour toi, ce n'est pas que les gens t'aiment, mais c'est que toi, tu les aimes. Là, tu as du poids aux yeux de Dieu. Tu ne cherches pas ce que les gens te disent bonjour, mais c'est toi qui cherches à leur dire bonjour. Tu ne cherches pas ce que les gens s'approchent de toi, mais c'est toi qui approches les autres. Là, ton âme a du poids. Tu ne dépends pas. Vous savez, il y a des gens qui courent, ils apprennent qu'il y a telle chose qui marche financièrement. C'est des chrétiens. Allez, ils vont investir là-bas, ça coule. Ils apprennent que telle chose marche là-bas. Ils courent après l'argent. Mais non, il est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux, c'est l'argent qui nous suivra. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. On n'a pas à courir, même quand on apprend à gauche, à droite, non. Notre Dieu est tout puissant pour nous faire parvenir les richesses. Il nous ouvrira des portes. Et d'ailleurs, on réalisera que même quand les gens vont chercher à fermer ces portes-là resteront ouvertes pour nous. Ça, c'est Dieu. Et on doit être prêt quand on sent qu'une porte nous est ouverte et que ça se ferme. On doit être prêt à dire, bon, puisque ça se ferme, Dieu le veut ainsi. Je m'arrête. Mais il y en a qui forcent. Oh, c'est Dieu qui m'a ouvert. Mais si c'est Dieu qui t'a ouvert, il s'occupera de maintenir ça ouvert. Toi, reste en paix. Tu sais que Dieu t'a ouvert la porte. Continue à prier. N'entre pas dans des conflits humains. Ne cherche pas le soutien de l'homme, le soutien de la chair. Reste dans le Seigneur. C'est l'homme lui-même qui doit te soutenir. Ce n'est pas à toi de chercher cela. C'est Dieu qui va toucher les humains. Reste en paix. Attention, bien-aimé, à l'emballage. Et vous savez à quel moment on voit les choses clairement? C'est quand on s'approche de la mort. C'est ce qu'une sœur a expliqué. Elle a dit, elle a fait face à la mort. Corinne Temboum, elle était dans le camp de concentration allemand. Elle a dit, quand on fait face à la mort, c'est là qu'on comprend l'importance des choses. On sait que sucre, c'est sucre. Sel, c'est sel. Parce que la mort, quand on s'approche de la mort, on voit tout maintenant clairement. On sait que telle attitude est mauvaise, telle attitude est bonne. Puisque tout, ça, c'est comme si notre intelligence est démultipliée. La vision est démultipliée. On voit clairement. Et c'est là qu'on comprend. Finalement, quand tu t'approches de la mort, tu te dis, mais à quoi me servent mes bijoux? Quand tu as 89 ans, 105 ans, tu es milliardaire. C'est là que tu te rends compte que l'argent n'est qu'un emballage. Parce que ces milliards-là ne peuvent pas te donner la santé, ne peuvent pas te redonner la vie. C'est là que tu te rends compte. Tant qu'on est bien, on ne voit pas tout ça. Tant que l'emballage n'est pas ouvert. Parce que ouvrir l'emballage, c'est quoi? C'est le tuer, non? Quand tu ouvres l'emballage, il n'est plus, il est ouvert, il est détruit. Maintenant, quand le corps commence à se détruire, c'est là que la réalité sort. C'est là. Vous n'avez jamais entendu parler des gens qui ont fait un accident et qui se sentaient mourir et qui voyaient le film de toute leur vie passée. Ils voient tout passer. Pourtant, ça peut durer peut-être 10 secondes, mais ils ont des capacités démultipliées. Donc, ils voient toute leur vie en 10 secondes. C'est là que tu te rends compte, mais pourquoi j'ai été impoli envers mon père? Pourquoi j'ai parlé de telle manière à ma mère? Mais quand tu le faisais, la force de l'homme te faisait croire que tu as raison. Tu avais raison. Mais à l'approche de la mort, c'est là que tout devient clair. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand il y a certaines épreuves difficiles, c'est là que tu te rends compte du fait que le corps n'est qu'un emballage. Je vous ai parlé de ma souffrance où c'est le nerf qui te fait mal. Mais quand les gens te regardent, ils trouvent un homme grand, mais la souffrance que tu as physiquement, c'est comme si quelqu'un te met un poignard entre les deux omoplates. Et la douleur va jusqu'à la main ici. Là. Et là, du côté de l'épaule, du côté de la clavicule, c'est comme si on est en train de te scier la clavicule. La douleur te donne l'impression qu'on te scie la clavicule. Tu as la scie ici, le poignard entre les deux omoplates. Mais si quelqu'un te regarde physiquement, il ne voit pas ça. Lui, il voit un corps grand. C'est là que tu te rends compte que le corps n'est qu'un emballage. Ce n'est qu'un emballage. C'est l'intérieur qui compte. Vous voyez, un nerf, c'est un fil qui est très fin. Mais ce fil-là qui est très fin arrive à déranger tout un corps comme le mien et à le paralyser. C'est là que tu te rends compte que c'est l'intérieur. Tout ça, c'est des messages que Dieu nous envoie pour nous dire « Occupez-vous de votre âme. Le corps ne sert à rien. Le corps doit servir à porter suffisamment l'âme pour que l'âme fasse le boulot de Dieu. » C'est très important, bien-aimé. Vous savez, en enfer, c'est l'âme qui va souffrir. L'âme va souffrir terriblement. Et c'est une réalité. Et ce qu'on lit, vous savez, on lit, non, dans la Bible, que les gens brûlent, mais leur corps reste intact en enfer. C'est ce qui se passe. Tu brûles, tu souffres, mais encore sur la terre, quand tu brûles, ton corps se consume et c'est fini. Mais en enfer, tu brûles, mais sans que ton corps diminue. Il reste pareil. Mais la souffrance est toujours plus grande. Et il est écrit dans la Bible, dans l'Apocalypse, il y a des gens qui vont demander la mort. Mort, viens sur nous. Mais la mort n'est plus. Vous savez, c'est le genre de douleur que j'ai expérimenté. Ton corps a la même couleur, a le même poids, mais tu souffres. C'est-à-dire que ton corps donne l'occasion à la souffrance de s'exprimer parce qu'il ne meurt pas. Donc, c'est devenu un corps, un endroit qui donne l'occasion à la souffrance de s'exprimer. Bien, c'est ce que j'ai goûté un peu à l'enfer. C'est ça, l'enfer. C'est-à-dire que ton corps est toujours là. Il ne meurt pas. Et il donne de l'espace à la souffrance de s'exprimer. Tu désires la mort ne vient pas. Le corps est toujours là. C'est ça la réalité. L'enveloppe du corps. Ce n'est qu'une enveloppe. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Corinne Ten Boom a dit, j'ai fait face à la mort à plusieurs reprises. Vous savez, chaque soir, on tuait environ 600 personnes dans ces camps de concentration. À chaque fois, elle échappait, donc elle faisait partie des gens qui étaient juste après la liste des 600. Elle dit, quand tu fais face à ce genre de choses, tu comprends que sourire à quelqu'un, c'est important. Tu comprends qu'aimer les gens, c'est important. Tu comprends que pardonner... Parce que tu réalises que la vie ne tient qu'à un fil. C'est ça la réalité. Tu vois tout clair. Tu comprends que la richesse, c'est rien du tout. Ce qui est important, c'est la relation avec Dieu. Tu comprends ça clairement. Et hier, j'ai parlé avec une sœur. Je lui ai demandé. Moi, j'aime beaucoup parler avec les aînés. Je lui ai dit, mais comment tu t'es converti? Elle m'a dit, je me suis converti parce que je ne croyais pas, entre autres, à l'existence de l'âme. Vous savez, les gens regardent au corps, mais il n'y a pas que le corps dans l'homme, il y a l'âme. Et le corps un jour mourra, mais l'âme continuera à vivre. Et c'est l'âme qui sera jugée. Et elle me dit, je ne croyais pas en l'existence de l'âme. Mais un jour, j'ai eu une maladie. C'est pourquoi j'ai dit que tout ce qui nous arrive sur le corps, sur nos maisons, sur nos voitures, sur nos enfants, c'est là pour nous dire qu'il faut chercher d'abord le royaume des cieux. Chercher la vie intérieure. Quelle place tu donnes à Dieu dans ton âme? C'est ça le plus important. Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Tu vis pour quoi? Tu vis pour l'emballage. Cette sœur ne croyait pas en l'existence de l'âme. Elle aimait son corps. Et elle est tombée malade. Sa fille lui a dit, mais maman, il y a le pasteur tel à Vernis là-bas qui prie pour les malades. Les malades sont guéris. Va au culte. Elle n'était pas encore chrétienne. Elle est partie, elle a dit, moi je suis venue pour la guérison. Mais ce jour-là, elle est tombée sur une prédication où le pasteur disait, il faut veiller sur votre âme. Elle s'est dit, mais l'âme n'existe pas dans son cœur. L'âme n'existe pas. Elle a dit à Dieu, si l'âme existe, montre-le-moi. Et le lendemain, son mari est sorti, parti au travail. Elle est restée toute seule à la maison. Elle a dit, je vais m'assoupir un peu. Elle m'a dit, quand je me suis assoupi, j'ai vu la réalité. C'est comme si je me regardais, je voyais que j'ai vu mes os, j'ai vu que mon corps était comme une enveloppe. Et finalement, il y a un fil qui a été coupé et je suis parti. Je suis morte. Et de là où j'étais, on m'a amené dans un endroit où j'entendais les gens crier. Je ne suis pas entré, mais j'entendais les gens crier. Ils criaient de douleur. C'était horrible. J'ai dit à la personne qui était en face de moi, je n'ai pas vu clairement Jésus, mais j'ai dit à la personne, je ne veux pas aller là-bas. Et on m'a amené dans un autre endroit, là où c'était la joie, la paix. Et elle a dit, c'est là que j'ai compris l'existence de l'âme. parce que mon corps était resté, mais moi j'étais parti. Elle a dit, mais quand on m'a ramené dans mon corps, mais c'est un choc. Ça a été un choc. À partir de là, j'ai compris que l'âme existait. Et un jour, là, ce n'était pas encore la conversion. Elle a compris que l'âme existait. Et un jour, elle a regardé le film sur Jésus. Elle a compris que Jésus-Christ était mort pour nos péchés, afin que nous ayons paradis. Elle a compris qu'elle avait des péchés. Elle a demandé pardon. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas encore compris que c'est des pécheurs. Parce qu'ils font le bien à gauche, à droite. Ça, ce n'est que de l'apparence, c'est l'enveloppe. Ce n'est pas parce que tu fais des biens aux gens, du bien aux gens que tu n'as pas de péché. Le fait que notre corps se détériore et qu'on meure un jour, c'est la preuve qu'on a des péchés. Ce n'est pas parce que les gens qui sont autour de toi sont plus mauvais que toi tu n'as pas de péché. Ce n'est pas eux l'unité de mesure. L'unité de mesure, c'est Dieu lui-même. Et devant Dieu, c'est écrit dans Romains 3, 23, tous ont péché, tout le monde. Tous ont péché. La preuve, c'est notre vieillissement. La preuve, c'est les maladies. La preuve, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand elle a regardé le film, elle a compris que Jésus était mort pour elle. Elle s'est repentie. Elle est devenue une nouvelle personne. Bien-aimée, quelle place tu donnes à ton âme dans ta façon d'exister, dans ta façon de vivre? Quelle place tu donnes à l'âme? Le corps périra, mais l'âme continuera. Redonne de l'importance à ton âme. Il faut que ton âme soit sauvée. Ce n'est point, vous savez, je cite quelques aspects de l'emballage. L'emballage, c'est aussi ça, c'est les œuvres. Il y a des gens qui pensent qu'en venant tous les jours à l'église, en faisant telle activité à l'église, qu'ils sauvent leur âme. C'est faux. La Bible nous dit que nous sommes perdus. Nous sommes des cas perdus. L'homme est un cas perdu, donc il ne peut pas se sauver par ses propres efforts parce qu'il a le mal en lui. Il ne peut être que nettoyé par le sang de Jésus. Et seul Jésus peut lui donner l'Esprit Saint pour qu'il reçoive une nouvelle vie et marche selon la parole de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Donc tous ceux qui cherchent à bricoler, à faire des choses pour paraître bons aux yeux de Dieu, sont dans l'enveloppe, sont dans l'apparence, sont dans le corps. Seul Jésus sauve. Seul Jésus sauve. Alors, ne cherche pas en toi. Je sais que quand on parle, les gens cherchent en eux. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis fort? Est-ce que je pourrais pratiquer ce qui est prêché? Mais pourquoi tu te poses toutes ces questions-là? Tu échoueras à coup sûr. Tu ne peux pas réussir par toi-même. Tu ne peux que dire, Seigneur, je constate qu'en moi, il y a le mal, il y a le péché. Et je sais que tu n'es pas d'accord avec ça. Aie pitié de moi et sauve-moi. Vous savez, qu'est-ce qui nous a sauvés? Ce ne sont pas les miracles du Seigneur. Ce ne sont pas les miracles de Jésus qui nous ont sauvés. C'est sa mort à la croix. Et c'est ce qu'on appelle dans Ésaïe 53, le travail de son âme. L'âme de Jésus a souffert. Quand il a dit aux gens qui étaient venus l'arrêter, il leur a dit, c'est maintenant l'heure des ténèbres, c'est votre heure. À partir de ce moment-là, l'âme de Jésus a commencé à souffrir. Maintenant, c'était pourquoi cette souffrance-là? C'était parce qu'il prenait nos péchés. Son âme a commencé à souffrir. Et à la croix, ça a été. Mais c'est comme ça qu'il a arraché notre salut. Alors pourquoi tu veux faire des efforts personnels? Abandonne ta vie au Seigneur. Le Seigneur a déjà travaillé pour toi à la croix. Il a travaillé pour toi à la croix. Mais il y a une condition. C'est qu'on mette la priorité, chercher d'abord le royaume des cieux, mettre la priorité sur la vie de l'âme. C'est ça la condition. On ne dit pas qu'il faut négliger le corps, mais mettre la priorité sur la vie de l'âme. Et 3 Jean 2 nous assure que si notre âme prospère, notre corps va prospérer aussi. Et nous prospérerons à tous égards. Nous assure 3 Jean 2. Mais mets la priorité sur l'âme. Est-ce que ton âme est en accord avec Dieu? Sois sincère. Dis-lui que ça ne va pas. J'ai beau faire des prières, j'ai beau faire des choses, ça ne va pas. Seigneur, sauve-moi. Aide-moi. Aide-moi. Tu dis, Seigneur, aide-moi, je suis bien avec toi. Avec toi, je suis dans la joie. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un qui est en prison, comme Esther Gulshan, quand on l'a emprisonnée, quand elle était vivante, quand elle était plutôt chez son papa, dans sa famille, elle avait 20 domestiques. 20 domestiques. Sa maison était un jardin extraordinaire, avait un jardin extraordinaire avec tous les fruits. Elle ne savait pas comment on lavait les assiettes. Mais son corps était paralysé. Son corps était malade. Depuis presque quelques mois après sa naissance, elle a eu une maladie, ça a atrophié ses membres. Donc elle était sur fauteuil roulant, on devait la laver et faire tout pour elle. Mais elle était dans une famille riche, avec un beau jardin, 20 domestiques. Alors quand Dieu donne, quand il n'y a pas la prospérité du corps comme ça, c'est un message de Dieu pour chaque humain. C'est pour dire, occupe-toi des choses de l'intérieur. Occupe-toi des choses de l'âme. Mais les gens ne saisissent pas le message. C'est comme je disais à une sœur, je dis, mais je comprends pourquoi beaucoup d'humains ne saisissent pas le message. Parce que quand on subit une maladie, au début, on a le choc. Et ce choc-là commence à nous faire venir vers Dieu. Mais après, il y a des calmants, il y a des stratégies, il y a des comprimés qui arrivent à finalement nous donner une certaine vie. Qu'on accepte et on oublie Dieu à nouveau. Alors qu'en réalité, on n'a pas la guérison. Cette fille-là avait 20 domestiques. Elle avait toute sa famille, elle avait une richesse extraordinaire. Mais elle n'a pas voulu de l'emballage. Tout ça, c'était de l'emballage. Les 20 domestiques, le beau jardin, les gros comptes bancaires, elle n'a pas voulu de ça. Elle voulait la guérison. Elle voulait avoir un corps normal. Et en voulant avoir ce corps normal, elle a cherché Dieu. Voilà. Ça fait mal de voir que malgré les maladies qui ont cours aujourd'hui, et il n'y a pas de solution. Moi, j'ai fait des tours à l'hôpital. Il y a des queues, la queue, pour rencontrer les médecins. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que des médicaments palliatifs. C'est des calmants. Il n'y a pas de guérison. Mais malgré ça, l'homme s'entête à ne pas vouloir chercher Dieu. C'est ce qui est écrit dans Romains 3:10. Nul ne cherche Dieu. Ça fait mal. Comment on peut être orgueilleux jusqu'à ce point? Au lieu que la maladie te fasse comprendre que tu n'es rien, c'est de l'emballage. Tu t'entêtes avec des médicaments de tous horizons à accepter une vie médiocre où c'est les médicaments qui commandent. Non, À un moment donné, il faut dire, je veux l'excellence qui vient du ciel. Cherchez Dieu. Gulshan, Esther a cherché Dieu. Et pendant 3 ans, il y a des gens qui disent, mais oui, mais moi aussi j'ai cherché, mais je suis toujours malade. Mais elle est là, oui, il faut continuer. Le soleil est toujours là, la lune est toujours là, les étoiles sont là, ça montre que Dieu existe. Il faut continuer à chercher le Seigneur. Elle a cherché le Seigneur. Et le Seigneur lui est apparu. Elle était musulmane, mais elle a cherché Dieu. Elle a arrêté les prières musulmanes. Elle a dit, moi je parle maintenant à Dieu face à face. Pourquoi tu m'as créé ainsi? Elle a entendu une voix qui lui a dit, mais qui a guéri les malades? Qui a ressuscité les morts? Elle a dit, je suis Jésus. Regarde dans le Coran, on parle de moi. Effectivement, dans le Coran, on dit que Jésus a guéri toutes sortes de maladies. Et quand elle a lu ça, elle a arrêté les prières musulmanes. Elle faisait que prier Jésus directement. 3 ans. Et après 3 ans, elle dit, mais Jésus, si tu ne veux plus me guérir, si tu ne veux pas me guérir, elle n'a pas dit, si tu ne peux pas. Elle dit, si tu ne veux pas, dis-le-moi. Quand elle a fini la phrase, c'était 4 heures du matin, la chambre s'est éclairée d'une grande lumière. Vous savez, dans l'Apocalypse, c'est écrit, il n'y aura pas besoin d'éclairage. Il n'y aura pas besoin de soleil. Il n'y aura pas besoin d'éclairage. Car Dieu lui-même va éclairer. C'est la vérité. Dieu est lumière. Quand Jésus entre, la chambre est éclairée. Elle avait une robe verte. La robe est devenue blanche. Ah, définitivement. Même après le départ de Jésus, la robe est devenue blanche. Jésus lui dit, lève-toi. Il dit, mais je suis infirme, je ne peux pas. Jésus lui dit, c'est moi qui te dis, lève-toi. Je suis la lumière du monde, le Fils de Dieu, King of Kings, Lord of Lords, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Gulshan s'est levée, elle a marché. Bien-aimée, on pouvait l'amener en prison. On a tué à un moment sa fille adoptive, hein, parce qu'elle ne s'est pas mariée. Mais elle est restée accrochée au Seigneur. On l'a déshéritée. On lui a pris tout l'argent. Tout. On a dit, si tu arrêtes avec Jésus, on te redonne tout. Est-ce que vous vous imaginez les millions, la belle maison, les vins domestiques? Maintenant, tu es guéri. On te dit, mais on est d'accord, Jésus t'a guéri, mais si tu renonces, tu reviens à l'islam. On te redonne tout ce qu'on a pris. Elle a dit non. La vie avec Jésus est plus belle. On l'a piégée, on l'a amenée en prison. Le premier jour, elle était triste. Jésus, comment tu me laisses? On m'amène jusqu'ici avec des voleuses dans la même cellule, avec des femmes qui ont peut-être tué. Elle a commencé à jeûner. Et puis finalement, le lendemain, elle a commencé à parler de Dieu. Avec le temps, chaque femme se donnait au Seigneur, se convertissait. La cellule de la prison est devenue une église. La gloire de Dieu était là. Et quand on est venu la sortir de prison, elle a dit à sa sœur, je veux rester en prison. Mais sa sœur a dit, mais tu es folle. Elle a dit, mais non, mais en prison, là où je suis, il y a la gloire de Dieu. Les voleuses sont devenues des chrétiennes. Tout le monde, quand elle reçoit une visite, on lui amène la nourriture par ses parents. Nous partageons la nourriture, nous mangeons ensemble. La gloire est là. Vous savez, quelqu'un qui a goûté à la gloire de Jésus est prêt à subir n'importe quelle souffrance. Mais gardez cela. La vie avec Christ n'est pas une vie de souffrance. Il y aura des souffrances infligées par le monde, mais la gloire de Dieu va compenser tout cela. Sa présence est plus précieuse que toutes ces souffrances-là. Ce n'est pas pour rien que David dit dans le psaume 63, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Sa présence vaut plus que tout. Bien-aimé, dans chacune de nos actions dorénavant, faisons la différence entre l'emballage et l'intérieur. Dans tout ce qu'on fait, tu es chantre, tu es musicien. Pour Jésus, fais la différence entre l'emballage et l'intérieur. Tu es chrétien, dans tes projets, fais la différence entre l'emballage et l'intérieur. À quoi tu donnes beaucoup plus d'importance ? À l'intérieur ou à l'emballage ? C'est ça qui est important. Quand on arrive à la mort, tout va disparaître. Il ne reste plus que notre pensée. Et cette pensée-là, c'est qui ? C'est quoi ? C'est notre âme. Il ne reste plus que notre âme. Et notre âme vit par la foi. C'est la foi en Dieu. Nous allons clôturer avec ce verset dans 2 Timothée 4:7. 2 Timothée 4:7. L'apôtre Paul arrive à la fin de sa vie. Il arrive à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Quand il dit qu'il va être offert en libation, libation, c'est le liquide qu'on met à la fin d'un pour clôturer un sacrifice. Donc toute sa vie a été au service de Jésus. Maintenant, c'est sa vie même qui doit partir. C'est ça la libation. Oui, diacre.
Lisons la parole dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
Amen. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Quand on arrive à la fin de sa vie, il ne nous reste qu'une seule chose. Soit on a la foi, soit on ne l'a pas. Est-ce qu'on comprend ? Donc quand on va arriver à la fin, une seule chose va rester. Soit on a la foi en Jésus, soit on ne l'a pas. Il faut comprendre qu'on peut avoir la foi en beaucoup d'autres choses. Quand quelqu'un saute à l'élastique, il a la foi, non ? Vous savez, le truc là, que, ça s'appelle en anglais « wingsuit », une sorte de costume qui fait comme des ailes. Les gens sautent à partir d'une montagne, ils sautent à partir d'une falaise. Ils ont une combinaison, une sorte de costume avec des ailes. Pour faire ça, il faut avoir la foi, non ? Mais ce n'est pas la foi en Jésus. C'est la foi en soi-même. Il faut comprendre que la foi en d'autres choses peut donner aussi une certaine énergie, une certaine détermination. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que la foi en Dieu qui existe. On peut croire en soi-même. Mais la différence, c'est que ça finira mal. C'est du faux emballage. Ça te donne de la force. Ça se vend, d'accord, mais ça finira où ? À être déchiré pour qu'on examine le produit. Les gens là qui font les wingsuits, ils finissent où ? Ils finissent où ? Sur la falaise, hein ? Un jour ou l'autre, ils finissent sur la falaise, morts. Et il y a même des courageux qui font ça avec leur femme. Et ça finit où ? Un meurt, l'autre reste vivant. Ils ont inventé toutes sortes de choses. Vous savez, il y en a qui descendent les falaises, les montagnes avec des vélos, sur des vélos. Ça s'appelle quelque chose avec rider à la fin. Mais ils finissent où ? Dans le tombeau. Mais ils avaient le courage. On peut avoir le courage dans la bêtise. Mais c'est de l'emballage. Un jour, on ouvrira l'emballage, on regardera. Les juges du ciel vont regarder, vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est rien du tout, il avait foi en lui-même. Allez, en enfer. On va regarder. Il pèse combien ? 20 grammes. Ah, il faut me donner l'apparence de 3 kilos, allez. Donc c'était quoi alors ? C'était l'emballage. La foi que tu as en toi-même, à l'approche de la mort, ça va partir. Et il te restera quoi ? Rien du tout. Mais quand quelqu'un a foi en Jésus, quand la mort vient, Jésus a dit quoi ? J'ai vaincu la mort. Je suis ressuscité. Quand la mort vient, une telle personne se sent partir auprès de son papa au ciel, habiter là-bas. C'est ça qui va lui rester. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Vous savez, Paul fait partie des serviteurs les plus importants de Dieu depuis que l'humanité existe. Mais quand il parle là, il ne dit pas que j'ai fait des exploits. Il ne dit pas qu'il a bâti des églises, qu'il a converti beaucoup d'âmes, qu'il a fait beaucoup de guérisons. Il dit, j'ai gardé la foi. Tout ça va être oublié parce que tu es seul face à Dieu. Face à Dieu, c'est ton âme qui va peser ou pas. Ce n'est pas les exploits que tu aurais fait, convertir les âmes, guérir, faire du bien aux pauvres, comme certains qui pensent que Mère Thérèse est au ciel. Elle n'est pas au ciel, elle n'a pas cru en Jésus. Ce n'est pas tout ça qui compte. Ce qui soutient ton âme, ce n'est pas la bienfaisance, c'est la foi en Jésus. Car Jésus seul est mort à la croix en prenant tes péchés. Si tu ne crois pas en lui, tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas ton bon comportement qui va te sauver. Ça n'a pas de poids. Ce qui a de poids, c'est la foi en Jésus. Et quand tu as la foi en Jésus, Jésus te donnera par sa puissance le bon comportement. Ce jour-là, tu es pesé. Ton âme est pesée. Et l'apôtre a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Bien-aimé, qu'on te prenne tout, mais garde la foi en Jésus. Qu'on te prenne le boulot, qu'on te prenne le boulot, qu'on te prenne ta maison, qu'on te prenne ta voiture, qu'elle tombe en panne. Garde ta foi en Jésus. Par ta foi en Jésus, tu peux tout reconstituer. Tu peux tout reconstituer. Prions que le Seigneur nous donne de savoir poser nos priorités. La priorité, c'est l'âme. Où est ton âme aujourd'hui? Si ton âme n'est pas encore avec Jésus, nous allons prier. Dis à Jésus, sauve-moi. Je suis perdu. J'ai besoin de ton aide. Prends le contrôle de mon âme et fais de moi ton serviteur, ta servante. La vie de l'âme, c'est aussi faire confiance aux méthodes de Dieu, à la façon que Dieu a décidé de te conduire. Vous savez, il y a Ali qui était parti à la Mecque faire le pèlerinage. Et là-bas, Jésus l'a rencontré pour lui dire, ce n'est pas l'endroit pour moi ici. Jésus a sauvé Ali, il a sorti de la Mecque. Et quand il est retourné en Turquie, tout, parce que quand on fait le pèlerinage comme ça, il y a tous les voisins qui viennent fêter avec le pèlerin qui est de retour, mais il ne savait pas que lui, il avait rencontré Jésus là-bas. Il était assis autour de tous ces musulmans qui fêtaient son retour du pèlerinage. À un moment donné, il y a la voix de Jésus qui lui dit, « Lève-toi. » Il se lève. Parle. C'est ça la vie de l'âme. Pour les gens qui étaient là, il a dit n'importe quoi. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, vous êtes venus me voir parce que je viens de la Mecque, mais en réalité, moi j'ai rencontré Jésus là-bas et maintenant je suis devenu chrétien. C'est tout. Il s'est rassis. Et vous savez, beaucoup de gens vont dire, mais c'est quel discours pauvre. Mais c'est ça. C'est ça avec Jésus. Parfois, ce qui paraît pauvre aux yeux des humains, c'est ça qui est profond pour Dieu. C'est aussi sa l'âme. Apprendre à vivre la vie. Vous savez que l'âme est invisible. Donc parfois nos œuvres les plus invisibles sont les plus importantes parce que ce sont les œuvres de l'âme. L'âme est invisible mais elle est hyper puissante parce qu'elle est éternelle. Surtout quand Dieu prend contrôle de ton âme. Acceptons la simplicité dans laquelle Dieu nous mène, nous travaille. C'est ça aussi la vie de l'âme. Et la gloire de Dieu se manifestera parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il manifestera sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Amen.